Suite de notre exploration à travers l'histoire de la Nouvelle Revue Française, avec un quatrième épisode aujourd'hui consacré aux années 50 et 60. Après la fondation puis l'âge d'or de la NRF, nous avons parlé hier des heures sombres de la revue sous l'occupation. Dirigée de 1940 à 1943 par Drieux La Rochelle, écrivain collaborationniste, la revue s'est sabordée en juillet 1943. À la Libération, la revue n'existe plus, elle est même interdite de publication. Aujourd'hui, nous allons voir comment la NRF, malgré cet épisode sombre de son histoire, va naître une seconde fois, en 1953, sous le nom de Nouvelle Revue Française. Signe de continuité avec la période de l'entre-deux-guerres, elle est dirigée par Marcel Arlan et Jean Paulhan, qui continuera de s'y consacrer jusqu'à sa mort en 1968. Mais un nouveau personnage fait également son entrée dans la revue, Dominique Horry. Alors, comment la volonté affirmée de renouer avec le passé glorieux de la revue est-elle parvenue à faire oublier les années Drieux ? Dans un contexte intellectuel bouleversé par la Seconde Guerre mondiale, et dont le maître mot est désormais l'engagement, comment l'esprit NRF va-t-il retrouver sa place ? Pour nous répondre, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Angie David et Philippe Solers, qui nous font tous deux l'amitié de venir nous voir. Angie David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous avez publié une biographie de Dominique Horry aux éditions Léo Cher en 2006. Et vous êtes secrétaire de rédaction de la Revue littéraire. Bientôt en octobre, vous publierez votre premier roman intitulé Marie-Lou sous la neige. Philippe Solers, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pour votre part commencé votre carrière d'écrivain en plein dans ces années où reparaît la NRF.
Carrière, pas de carrière, non, s'il vous plaît.
Votre vie d'écrivain.
Voilà. Passons vite. Allons vite au sujet.
Oui, et vous avez été non seulement un observateur, mais un acteur de ces années-là. Vous avez fondé votre propre revue, telle quelle, et vous expliquez votre expérience de ce milieu littéraire dans vos mémoires qui sont publiées chez Plon, sous le titre Un vrai roman, en 2007. Pour commencer, je citerai Paulhan, qui écrit dans une lettre à Georges Lambrix « Solers doit avoir 22 ans, passe en ce moment l'ESSEC, ami de Francis Ponge et de Jean Cayrol, bordelais ». Alors Philippe Solers, est-ce que vous pouvez nous raconter votre entrée au sommaire de la NRF ?
D'abord, très jeune, donc je lis la NRF de façon tout à fait intense, pour des raisons très, très précises, c'est-à-dire que les années 55, 56, apparaissent là des textes absolument fondamentaux de Blanchot, et puis des inédits considérables, enfin d'Henri Michaud par exemple, et puis surtout de Louis-Ferdinand Céline, c'est-à-dire les grands extraits de ses derniers romans, D'un château l'autre, Nord et Rigaudon, avant qu'il se brouille plus ou moins avec Paulhan, etc. Mais enfin, c'est encore une vie intellectuelle très, très forte, un peu d'avant-guerre prolongée, mais très forte. Donc là, j'entre un peu dans le jeu et je vais voir Paulhan, ou plutôt Paulhan à travers Ponge, me fait signe. C'est Ponge qui demande des textes de moi, donc je suis très jeune, j'ai 21 ans. Et Paulhan dit « Oh, bon, oui ». Alors je suis allé le voir et là, à la NRF, c'était une atmosphère très bizarre. D'abord, il y avait Jean Paulhan, que je vous imite un peu comme ça.
Il le voit très au perché,
comme ça, voyez-vous, avec un accent un peu méditerranéen, un air très doux. Et alors, la première fois que je suis entré dans le bureau de NRF, c'était très étrange, parce qu'ils étaient là tous les deux, Arlan et lui. On a appris plus tard à quel point, au fond, ils ne s'aimaient pas du tout. Et puis, alors, une petite table, un peu plus loin, où était Dominique Horry. Alors, tout ça, ils étaient empreints d'une sorte d'électricité qu'on a appris plus tard, etc., etc. Ma première visite, c'était, je ne sais plus, la NRF avait pensé plus bien de l'extrait de mon premier roman.
Et votre premier texte publié dans la NRF, c'est Une curieuse solitude, avant-première, avant la publication.
C'est ça, avant la publication. Paulhan, tout de suite, qui voulait m'offrir des calissons. drôle. Et non, et en fait, il voyait en moi quelqu'un qui pourrait faire des notes, figurez-vous, dans la NRF. Moi, je ne fais pas de notes, mais messieurs, je ne vais pas faire des notules. Des études littéraires, autre chose. Donc voilà, c'était charmant. Après quoi, j'allais voir Paulhan de temps en temps chez lui, rue des Arènes, alors là, pour des tête-à-tête tout à fait impressionnants, parce qu'il travaillait avec la radio. Les chansons à la radio, il m'a prêté beaucoup de livres, et donc notamment des traductions du chinois, et des livres de Chesterton. Voilà, donc il y avait cette NRF-là, qui était en tout cas un lieu très vivant de littérature, parce qu'il n'y avait rien d'autre, par les temps modernes, c'était pas la littérature, à part quelques... Donc c'était quand même ce qui subsistait de la grande littérature française. Voilà. Puis c'est allé en déclinant assez vite après Paulhan. Ouais, ça.
Alors revenons un peu en arrière pour comprendre la refondation de la NRF en 53. En 43, Drieux fait un aveu de son échec dans la revue. Il la saborde en juillet. En mars 45, il se suicide. Il se soustrait donc à une condamnation. Angie David, vous parlez dans votre biographie de Dominique Horry du problème non seulement légal mais moral que pose la refondation de la NRF.
Mais disons qu'effectivement, elle a été condamnée à la libération pour intelligence avec l'ennemi. Hein, donc c'est quand même très très grave comme crime. Et donc elle a été interdite de publication. En réalité, en 1953, enfin en 1952, parce qu'il va y avoir un numéro spécial André Gide, puisque c'était le grand fondateur de la NRF. Donc le premier numéro, ils vont profiter en fait de numéros d'hommage pour relancer la NRF. Donc ils vont faire un Gide en 52. Et en 53, Gaston Gallimard et Jean Paulhan décident de relancer la NRF sans du tout régler la question juridique, en la publiant de facto et en se disant ce serait quand même énorme que aujourd'hui en 1953
voilà, le titre
et donc ils se sont dit personne ne va nous embêter, personne ne va nous interdire de publier, personne ne va réagir. Donc en fait la NRF c'est republié de facto, mais l'interdiction légale n'a jamais été levée. Sur un plan purement juridique, elle serait toujours condamnée pour intelligence avec l'ennemi, avec les Allemands.
La littérature a toujours l'intelligence avec l'ennemi.
Ouais. Et en fait, effectivement, donc pour faire une petite différence, ils ont rajouté un nouvel, avant Nouvelle Revue Française, donc c'était la Nouvelle Revue Française, la NNRF, que petit à petit, ils vont supprimer
cette
deuxième nouvelle. Voilà, en 59, ils vont l'enlever parce qu'en fait, ça y est, c'est bon, les choses sont installées, les choses sont acquises, donc il n'y a plus besoin de prendre de précautions. Et il y avait une blague qui circulait que Dominique Horry raconte, c'était la blague d'un bègue qui allait à la une à Saint-Germain, et qui disait les temps modernes, s'il vous plaît.
Philippe Solers, quelle place occupe la NRF dans le champ des revues littéraires dans les années 50?
D'abord, ce qui me paraît très utile, c'est de se demander, à l'intérieur de la NRF et de Gallimard, la lutte qu'il y a eu entre les auteurs. Car autrement, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Le pacte de Gaston Gallimard, qu'on a souvent cité, le pacte avec l'esprit. Le pacte avec l'esprit, ça veut dire que des gens très contradictoires peuvent exister ensemble sans pouvoir se supporter que l'un rentre par une porte, l'autre sort par une autre porte, et que s'ils se voient, ils ne se saluent même pas, ils ne se serrent pas la main parce qu'il y a du sang entre eux, des conflits historiques, etc. C'est très important à comprendre pour savoir à peu près où on est dans cette espèce de mausolée agitée et, encore une fois, contradictoire. On pourrait ensuite faire une autre histoire de la littérature française, à mon avis, qui n'est pas faite. On pourrait la faire pas commémorative, pas chronologique, pas ennuyeuse, pas emmerdante, comme ça. On devrait se demander quels sont les écrivains qui ont été chargés d'en cacher d'autres. Dans les conflits. Par exemple, il est clair que Gide aura servi, ou du moins dans un premier temps, à cacher Proust. Hein, c'est clair. Oui. Ensuite, vous posez la question de la poésie. Vous avez Paul Valéry ou Saint-John Perse qui sont chargés de cacher Claudel, qui est un énorme phénomène. Après, vous avez par exemple le fait que Sartre va être chargé de cacher Céline. Ensuite, vous pouvez comme ça continuer et faire une histoire contrasté de la littérature française plus vraie, avec des enjeux qui sont idéologiques, religieux, métaphysiques ou politiques, où la NRF occupe un pôle absolument très intéressant de guerre permanente. Malraux, Aragon, Breton, des gens qui se seraient volontiers arrêtés, fusillés les uns les autres. À un certain moment, Drieux, par exemple. Bon, Drieux est un très très bon écrivain français. On publie des choses de lui, on s'aperçoit. C'est pas le tout tout grand niveau. Bon, par exemple, René Char sert à cacher le plus possible Artaud. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a donc toute une littérature assez conventionnelle Hein, parce que, par exemple, Proust, l'Égide, il n'y a pas de comparaison possible, mm-hmm. c'est évident. On sait très bien que la NRF a passé son temps, par exemple, où Gallimard a refusé des choses, dans un premier temps, essentielles, à savoir André Gide et Céline, Le Voyage au bout de la nuit. Ouais. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Alors, on revient, donc, en 53, il y a un relookage, etc., mais il y a encore des auteurs, il y a des choses à lire de toute première importance. Et puis après ça, je crois qu'après, Paulhan était quelqu'un de tout à fait stratège. Il faut voir à peu près que on oublie trop Rivière, hein, qui est très important à mon avis.
Oui.
Et Paulhan, évidemment, là, dans un jeu d'échecs permanent. C'était fascinant de voir Paulhan écrire quelque chose comme 10 ou 15 petits billets par jour. C'était donc, il n'y avait pas les mails, etc. Mais enfin, il écrivait ses petits billets. J'en ai eu un certain nombre, comme ça, on s'est beaucoup amusés ensemble. Et donc, c'était quelqu'un qui était dans une stratégie extrêmement ramifiée, à la fois secrète et mondaine, hein, parce qu'il y a aussi...
Florence oui, c'est Poulet, le goût du secret.
Et Dominique Horry, etc. Donc, il y avait tout. Mm. C'est-à-dire, on contrôle en même temps un point métaphysique et littéraire fort, en se trompant, d'ailleurs, souvent, en surestimant Saint-Jean de Perse, par exemple. Hein. Et puis, en même temps, on joue. Alors, il y a les intrigues, il y a les prix, il y a les salons, etc. Voilà, c'est passionnant. Autrement dit, la NRF, c'est plus vaste que la NRF. C'est comme Gallimard, se passe beaucoup à l'extérieur de Gallimard. Voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui croient que c'est un lieu d'édition comme un autre. Pas vrai.
La revue, c'est des personnes, mais c'est aussi une entité qui se définit par rapport aux autres revues et par opposition. Par exemple, dans les années 50, c'est quand même la grande époque de Sartre, de sa théorie de l'engagement, oui. Les temps modernes. Est-ce que la NRF, elle ne joue pas le rôle du pôle opposé d'un non-engagement ?
Toujours la même stratégie, les contraires.
Oui.
Malraux ne pouvait pas supporter Sartre. Alors, donc, les temps modernes se font un peu plus loin, etc. La NRF continuait, etc. Vous voyez, par exemple, le côté très, très astucieux de Paulhan, c'est les petites notes de Paulhan. Il a signé, je crois, Jean Guérin. Hein. Mmh. Les petites notes de Paulhan, c'était presque rien. C'était un peu comme la Félix Fénéon, dont il était tout à fait amateur. Vous aviez ça à la fin de la revue, et on se précipitait pour savoir dans quel angle extrêmement pointu Paulhan déverser comme ça une fiole en général de poison, mais très subtilement.
Angie David, est-ce que vous pouvez nous raconter comment Dominique Horry est entrée à la NRF ?
Bah, disons qu'elle est rentrée de manière clandestine avant d'y être officiellement admise. Je voulais revenir un petit peu sur l'histoire des revues. C'est vrai que la NRF va quand même se relancer en 53 parce qu'aussi il y a un concurrent, c'est les lettres nouvelles de Maurice Nadeau.
Oui.
Et donc, très certainement, il y a quand même chez Gaston Gallimard la peur de perdre le pouvoir parce que la NRF, on peut considérer que la NRF a constitué la maison d'édition Gallimard au même titre que la revue telle qu'elle a constitué les éditions du Seuil dans les années 60 et 70. Donc c'est ça normalement la fonction d'une grande revue. En fait, c'est une vitrine, et derrière, ça permet de constituer un catalogue extrêmement fourni, extrêmement solide, pour établir une maison d'édition.
Dans ce catalogue, en effet, beaucoup d'écrivains avaient eu quand même mauvaise réputation pendant l'occupation allemande.
Bien sûr.
Lange, Rondeau et d'autres.
Et alors, ce qui
il fallait aussi réhabiliter, à juste titre d'ailleurs, parce que ce sont de bons écrivains, voilà tout.
Ouais. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est qu'après la guerre, donc il y a une crispation du milieu, notamment à cause du communisme.
Hein, oui, donc il y a les lettres françaises.
Lettres françaises, en fait, il y a...
Lettres françaises, c'est un journal, c'est pas...
Les lettres françaises, c'est un journal, bon, bien sûr, voilà.
Mais qu'il y a une grosse influence.
Mais où Paulhan est entré dès
voilà,
dès la guerre.
Voilà, il est rentré en conflit dès 1947 avec ses anciens camarades, hein, parce que Paulhan, c'est un des auteurs de la résistance intellectuelle, donc il va vraiment
lettre au directeur de la résistance.
Voilà, il va écrire les lettres au directeur de la résistance, il va y avoir 6 lettres, où il va expliquer en quoi il est complètement absurde de se conduire comme les Allemands avec la liste Otto, en censurant, voire en condamnant. Je veux dire, on connaît les ravages
Donc,
que ça
le débat,
a eu.
C'est entre Paulhan et
Aragon.
Le CNE, en fait, le Comité National des Écrivains.
Oui,
qui établit une liste.
Ils ont allé pour aller vite. C'est le règne d'Aragon.
Voilà,
de Sartre et Aragon.
Oui. Voilà, de Sartre et Aragon. Et Paulhan, d'un seul coup, se retrouve un petit peu aussi mis de côté. Et donc, c'est aussi une reprise de pouvoir de Paulhan sur le milieu littéraire de récupérer la NRF. Ce qui est intéressant, c'est que dans, effectivement, c'est Omer Chamaré avec des auteurs, effectivement, qui n'appartiennent pas aux mêmes lignes littéraires et politiques. Paulhan va réussir, à partir de 53, à continuer à avoir un sommaire très mélangé. Et en fait, on se rend compte que même des gens comme Maurice Blanchot, qui se sont radicalisés pendant la guerre et à la Libération, vont continuer à écrire dans la NRF, Ils vont reprendre l'écriture dans la NRF en 53. Blanchot écrit dans la Table ronde en 45, avec Thierry Monnier dans le même sommaire. Dans les Cahiers de la Pléiade, c'est pareil, on va voir Blanchot et Monnier ou Jandot ensemble. Donc en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas aussi marqués politiquement que ça. Et la vraie coupure se fera, comme vous l'aviez dit, en 68. Donc en fait, cet après-guerre, c'est un petit peu, le milieu va un petit peu s'arranger comme ça pour que finalement, tout le monde puisse continuer à publier. Parce que c'est quand même ça qui est important pour les auteurs, c'est quand même d'être publié.
Et publier plutôt de bons textes.
Et de voilà, publier de bons textes dans une belle revue prestigieuse qui leur permet de se lancer.
Alors, une mauvaise littérature qui a raison idéologiquement, c'est détestable. Il vaut mieux de la bonne littérature qui est tout à fait coupable idéologiquement.
Voilà,
une fois qu'on aura compris ça, on évitera beaucoup de discussions.
Voilà, ça c'était Pollan qui... C'était vraiment
donc
sa position.
L'idéal de la NRF depuis le départ, c'était de placer la littérature au-dessus.
Voilà, oui.
Et la continuité est forte finalement après la guerre avec cette idée.
Toute ma mise idéologico-politique était récusée et à juste titre.
Ouais, voilà, donc c'était vraiment la littérature au-dessus de tout. Dominique Horry était dans cette veine-là. Donc en fait, elle va commencer à travailler un petit peu dans le couloir, dans les couloirs de Gallimard pour Pollan. Elle va faire des notes, elle va commencer à lire des manuscrits, elle va la tester, va lui faire écrire des critiques et tout ça pour voir comment elle se débrouille. Et c'est vrai qu'en 53, il lui propose très clairement de devenir secrétaire de rédaction de la revue. Lui, il ne voulait pas de la direction en son nom propre, donc c'est pour ça qu'il va demander à Marcel Arlan de venir co-diriger la revue, parce qu'en fait, Pollan était quand même fatigué, il savait que ça allait encore être des bagarres internes, sans fin, ça faisait, lui, il s'était quand même farci, vraiment, le milieu littéraire communiste de plein fouet, depuis 45, il se battait contre eux, bon, il en avait un petit peu marre, donc il avait envie qu'il y en ait un qui soit un peu bouc émissaire aussi, de temps en temps. Mais en fait, on se rend compte dans les faits que, au même titre que la NRF de Drieux, c'est encore Pollan qui l'a fait, quoi. Mais par derrière. Oui. Donc il y a toujours une activité de chez Pollan, y compris dans ses lieux de travail légitimes, comme Gallimard, une activité secrète.
Sur l'activité secrète de Pollan pendant la guerre à la NRF, vous avez une anecdote vraiment amusante qui est relatée par Dominique Horry elle-même, quand elle a rencontré Pollan dans son bureau de la NRF pour lui apporter un numéro
des lettres françaises clandestines.
Oui.
Oui, parce qu'en fait, Dominique Horry, elle a quand même été boîte aux lettres. Elle prenait pas autant de risques des résistants. Enfin, il fallait quand même le faire. Et c'était une activité clandestine. On pouvait se faire exécuter par les Allemands pour ça. Elle raconte qu'elle se retrouve à la coupole avec tous ses exemplaires, qu'elle s'assoit dessus, qu'elle a les Allemands qui sont tout autour. Et que là, quand même, elle a un moment de frisson. Surtout qu'elle apprend que certaines filles comme elle, boîte aux lettres, ont été déportées. Donc, c'est une réalité, cette prise de danger. Donc, c'est vrai qu'ils vont se rencontrer là-dessus aussi. Sur cette espèce
dans
de,
le secret
de,
finalement.
Oui, ce goût du secret, ce goût de la clandestinité, du danger aussi, du danger physique. C'était des gens qui trouvaient que la période de la guerre avait été exaltante parce qu'on risquait sa vie tous les jours. Et que quand même, ça donnait des êtres humains autre chose que quand on est dans une vie de patachon.
Philippe Solers.
C'est très bien décrit dans le livre d'André Lévite sur Dominique Horry. Il ne faut pas oublier que toutes ces personnes très remarquables, Blanchot, Dominique Horry, Papolon, venaient quand même, Thierry Monnier, venaient de la droite française. La révélation, par exemple, de la collaboration de Maurice Blanchot à la droite ultranationaliste avant la guerre, a fait l'effet d'une bombe lorsque c'est sorti, puisqu'on voit ensuite Blanchot devenir tout à fait communiste, etc., vers la fin. Donc tout ça est très, très intéressant et pas assez connu. Oui. Alors, effet, il y a eu ensuite résistance, sous l'influence de Georges Bataille, d'ailleurs, comme vous l'avez vous-même souligné par rapport à Blanchot. Mm-hmm. Voilà. Donc, mais la joie de Pollan, c'était en effet de pouvoir faire des mariages imprévisibles. Mm-hmm. Premièrement, un jour, il me dit, je vais avoir Breton et Aragon dans le même numéro. C'était une réussite considérable. Alors, là, il y a aussi... La chose principale, c'est l'édition de Sade.
Oui.
Parce que là, il faut y venir tout à fait, parce que ça passe par Pauvert, qui a été d'ailleurs très bien, la merveilleuse boîte aux lettres qui le représente très bien. Mais derrière tout ça, il y a évidemment Pollan. Et donc, histoire d'eau de Dominique Horry. Donc, attention, dans ces années-là, Sade, c'est tout à fait impossible.
Oui.
C'est, ça circule
vous,
sous
vous
le manteau,
lisez dans les années 50,
ça n'est pas publié.
Et
nous sommes très loin d'aujourd'hui, où grâce à Antoine Gallimard et un peu à moi, puisqu'on a pris la décision ensemble, vous avez 3 ou 4 volumes dans la Pléiade. C'était absolument impensable. Il faut bien souligner ces choses. La littérature, dans son aspect le plus subversif ou sulfureux, était sous le manteau. Et grâce à Poulenc, et Horry aussi, bien sûr, avec une remarquable maîtrise et de sang-froid. La résistance, c'est bien, mais ça, c'est mieux, si j'ose dire.
Bien
donc, voilà, là, on touche le nerf de la guerre, de la NRF, alors qu'il n'était pas question, puritainement, communistement, sartriennement, tout ce que vous voudrez, de parler du Marquis de Sade.
Ce qui marque les années 50 en littérature, c'est la redécouverte de l'érotisme avec Sade et l'intérêt pour des littératures étrangères comme Nabokov. Mm-hmm. Alors, Dominique Horry, elle s'inscrit dans cet intérêt-là, et puis elle va être surtout l'auteur d'Histoire d'eau, mais on ne le saura que bien plus tard. Puisque...
Mais n'oubliez pas que lorsqu'Histoire d'eau paraît, excusez-moi, là, Dominique Horry n'est pas l'auteur.
Oui.
Elle apparaît voilée. Il y a tout un cirque autour de cet auteur inconnu. Voilà. Donc, la justice s'émeut. Enfin bon, on est dans un climat français très étrange, qui peut d'ailleurs revenir demain. Hein, tout ça est très, très, très difficile à analyser dans le temps. Mais n'empêche que c'était tout à fait clandestin, comme la liaison entre
Alors moi,
et Dominique Horry.
J'avais un petit peu, dans mon livre, fait cette théorie, entre guillemets, de cette passion que Poulenc et Horry vont partager après la guerre pour l'érotisme. Effectivement, à mon avis, c'est une continuité de l'activité clandestine, parce que ce sont des gens qui vivent, c'est terrible à dire, mais un petit peu avec la nostalgie de la guerre, parce que, je vous dis, cette vie de secret, cette vie clandestine, on se cache, on prend un pseudonyme, ça les amusait beaucoup. Ils trouvaient ça absolument hilarant. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est érotisme et tout va permettre un petit peu de renouer avec cette tradition-là, puisque la société française des années 50 est un peu stricte après ce qu'elle vient de faire. Alors, on est très moral, il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, c'est vrai que ça va un petit peu remplacer, finalement, l'ambiance de la résistance. Alors, ce qui est intéressant sur Nabokov, c'est qu'on a donc cette France qui est un petit peu puritaine, républicaine puritaine, et en même temps, Lolita de Nabokov ne pouvait absolument pas être publiée aux États-Unis, a été publiée en France, mais en anglais, par une maison d'édition qui s'appelle Olympia Press, qui est en fait une maison d'édition anglaise installée à Paris.
Maurice Giraudias.
Voilà, de Giraudias, Maurice Giraudias, et où on se rend compte qu'en fait, Paris est une place où on peut faire justement des choses clandestines, de l'édition sous le manteau, et que ça marche vraiment. Enfin, il y a vraiment un système de diffusion qui existe pour ce type de livre. Donc ça, c'est vraiment un cas d'édition tout à fait
extraordinaire. Mais l'Ulysse de Joyce est paru à Paris avant de pouvoir paraître aux États-Unis, puisqu'il était interdit. Donc n'oublions jamais que lorsqu'on parle de littérature, qu'il faut toujours comparer ça à l'état des mœurs d'un pays donné.
Angie David, est-ce qu'on peut revenir sur le personnage fascinant de Dominique Horry, puisque peut-être que les auditeurs n'ont pas tout suivi. Qui est l'auteur d'Histoire d'eau sous le nom de Pauline Riage?
Donc c'est Dominique Horry, qui en fait s'appelle Anne Desclos, parce que c'est un pseudo, ça suffit pas, il faut en avoir deux. Donc Dominique Horry, on voit tout de suite, dès ses premières années dans le milieu intellectuel, à l'époque d'extrême droite, donc avant-guerre, quand elle est la maîtresse de Thierry Monnier, quand elle va écrire ses premiers articles dans des revues plus que d'extrême droite, des hebdomadaires comme L'Insurgé qui sont vraiment... Donc c'est vrai qu'elle va tout de suite prendre un pseudonyme parce que ses parents l'embêtent un peu en disant oui, on n'a pas tellement envie. Son père était un peu diplomate, il s'occupait des relations franco-anglaises, de l'Alliance française à l'étranger, des relations entre les universités françaises et anglophones. Et donc il n'avait pas tellement envie que le nom de Desclos apparaisse dans ce genre de... Et on se doute que Dominique Horry, elle était tout de suite très très contente de toute façon, qu'il n'a pas fallu la pousser beaucoup pour prendre un pseudonyme. Donc elle se fait appeler Dominique Horry, c'est le nom sous lequel elle est connue dans sa vie publique, dans sa vie professionnelle. Et effectivement, elle va écrire Histoire d'eau en cachette, le publier clandestinement, sous pseudonyme, Pauline
Riage. Et pour séduire Poulenc.
Et pour séduire Poulenc, parce que, en fait...
Ça, c'est très beau. Philippe Solas.
Il y a deux...
Plaire à l'homme qui lui plaisait, qui aimait bien ce genre de choses.
Voilà.
Donc, elle a... C'est ça qui était... La commande, en quelque sorte, est venue du désir de s'attacher
c'est
à l'homme, de le stupéfier, de le surprendre, de lui faire une préface, et de monter tout ce... Toute cette apparence dissimulée qui a occupé les esprits pendant un grand nombre d'années.
Ouais, ouais.
Puisqu'on a appris que bien plus tard, qui était l'auteur de l'histoire.
Oui, parce que il y a eu plusieurs noms, dont son nom, hein, qui ont été évoqués. On a dit que c'était Paulhan, on a dit que c'était Mandiargue, bon, on a dit que c'était Horry, enfin, on ne savait pas qui c'était. Et elle, disait toujours, c'est la question à laquelle je ne réponds jamais. Quand on lui dit, est-ce que vous êtes Pauline Réage? C'est la question à laquelle je ne réponds jamais, répondait-elle. Donc, il y avait comme ça, chez Horry, un jeu aussi, quoi, avec le secret de dire, voilà, si je veux être impénétrable, même si on essaye de me démasquer à visage découvert, eh bien non, je resterai toujours derrière mon secret. Et elle l'a avoué, si on peut parler d'un aveu, enfin reconnu être l'auteur
après
à part
la mort
entière.
De ses parents. Hein? Après la mort de ses parents.
D'abord après la mort de ses parents, mais même bien après, voilà, parce que ce qu'elle ne voulait pas, en fait, la caractéristique, à mon avis, du tempérament de Dominique Horry, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le danger physique, le danger intellectuel, mais absolument pas le danger social.
Mais oui, mais c'était impossible de s'exposer.
Oui. Bah oui, si elle s'est exposée,
d'abord
par
c'était un événement
par rapport à Gallimard, c'était un peu bien jazz, sûr, parce qu'elle était quand même au comité de lecture. Vous savez que Paulhan a quand même eu la perversité avec Horry de mettre le manuscrit en lecture, avec Horry qui a dû entendre les gens dire « mais c'est effroyable, c'est épouvantable ». Oui. On peut pas publier des choses comme ça.
Mais en même temps, je crois que le manuscrit a reçu un avis 1 ou l'avis le plus positif. Même si il était impensable de le publier, il était quand même reconnu
enfin,
comme...
Tous les membres du comité ont dit à Gaston, il n'est pas envisageable que tu publies une telle chose.
Et N.J. David, du point de vue de la qualité littéraire, Gallimard avait quand même reconnu que c'était un texte de valeur.
Oui, enfin c'était Paulhan qui avait dit, surtout Paulhan était avec une diatribe, il faisait toujours des diatribes debout, hein, il se levait lui de son fauteuil parce qu'il était quand même très expansif. Et donc il y a une anecdote où elle raconte quand il adorait par exemple faire quelque chose, c'était prendre un manuscrit, en faire une éloge absolument mais totalement excessive, dithyrambique, et après de le jeter par terre en disant « Avicat, c'était chier, absolument impossible à publier ». Bon là, il n'a pas fait ça.
votre livre est considérable, admirable, stupéfiant, très beau, mais plat.
c'était vraiment du Paulhan pur jus.
C'est extraordinaire, mais sans intérêt.
Sans intérêt. Donc il faisait souvent ça. Donc là, non, il va faire une diatribe du manuscrit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Albert Camus qui dit « Une femme, jamais ». Une femme n'a pas pu écrire ce livre, c'est forcément un homme. Donc c'est là qu'on voit quand même les mentalités, même des écrivains.
Ceux qui avaient
sont pas toujours aussi ouverts d'esprit.
Mais non,
c'était ça,
de l'époque. Une femme ne peut rien faire de toute façon. Voilà. Et Beauvoir en a vu d'autres sur un autre plan.
Oui, bien sûr.
Donc là, on voit le chemin parcouru.
La présence même d'une femme à la NRF faisait problème. Gide, donc bien des années avant, disait que les femmes étaient tolérées à la NRF, mais qu'elles étaient seulement tolérées. Il s'agissait d'une grande imprudence de les différentes entrées.
Mais Dominique Horry a eu l'intelligence d'exercer son pouvoir dans l'ombre de Paulhan.
Pauline Réage, c'est l'anagramme d'Égérie Paulhan.
En fait, elle a dit que c'était pas ça. Hein. C'est vraiment Pauline Réage. Chez Pauline, c'est par rapport, en hommage à son amie Edith Thomas, enfin sa maîtresse et amie Edith Thomas, qui avait écrit un livre sur Pauline Roland. Donc elle reprend Pauline pour ça. Et Réage, c'est juste un nom qu'elle a repéré sur le cadastre de Seine-et-Marne, parce que Dominique Horry n'aimait que l'Île-de-France. Elle n'aimait avoir qu'une maison de campagne en Île-de-France. Elle était folle amoureuse de l'Île-de-France. Et donc, oui, bien sûr, elle va...
Alors, eh bien, j'ai bien connu Dominique Horry à la fin de sa vie, au comité de lecture de Gallimard, qui se tenait en fin d'après-midi. Elle lisait d'une voix très posée sa note de lecture. Et ensuite, elle avait tendance à s'endormir. Et c'était très touchant. Oui. Le soir tombait, le crépuscule montait, et Dominique Horry s'endormait. Et elle a été toujours très, très, très charmante avec moi.
Elle lisait au lit, elle lisait beaucoup de manuscrits. Hein. Elle faisait partie de ces éditeurs qui lisent vraiment les manuscrits grand soir. Voilà. Et elle en lisait beaucoup, elle les lisait dans son lit. Effectivement, elle s'endormait, elle se réveillait, reprenait sa lecture, elle s'endormait, elle se réveillait, reprenait sa lecture. Et moi, je dois avouer que je fais un peu comme ça aussi. Donc, je suis déculpabilisée. Que je sais qu'Horry l'a fait.
Vous parlez de Dominique Horry, on va justement entendre sa voix.
Le problème n'est pas celui de l'existence des revues, c'est celui de l'existence du public. Parce que les revues, comme vient de dire Georges, les petites revues animées par des garçons fous de littérature, ça a existé absolument de tout temps et ça continue d'exister.
Absolument.
Elles ont seulement ce qui se passe et ce qui s'est toujours passé. Elles ont... un an, deux ans, trois ans d'existence, et puis elles disparaissent parce que les garçons n'ont plus d'argent. Généralement, ils font ça avec leurs moyens personnels. Les garçons n'ont plus d'argent. Les maisons d'édition n'ont pas envie
de
faire les frais
longtemps.
d'une revue qui ne se vend pas, qui se vend. Gaston Gallimard avait un mot terrible quand il avait des doutes sur la Nouvelle Revue Française. Il disait, mais enfin cette revue, vous vous rendez pas compte, mais vous la faites pour qui? Vous la faites pour vous pratiquement.
C'était Dominique Horry, invité avec Georges Lambrix au micro de Roger Vrigny en 1977. Alors Philippe Solers, ces garçons fous de littérature, est-ce que vous vous reconnaissez avec l'aventure de la Fondation Telle Quelle?
Il y a quelqu'un qui est très important là, dans la Fondation Telle Quelle, c'est Francis Ponge, qui a à ce moment-là des rapports difficiles avec Paulhan. Ils sont très amis et il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et Ponge, donc là, vraiment, j'étais là, allé le voir, il était dans une misère très profonde, il était professeur à l'Alliance française à ce moment-là, et il était vraiment mis sur le côté. Aujourd'hui, il y a l'œuvre de Francis Ponge en Pléiade, dans cette fameuse Pléiade, n'est-ce pas, où il faut attendre parfois 40 ans. Par exemple, les romans de Georges Bataille ne sont parus en Pléiade que tout récemment, il a fallu 40 ans. Vous voyez, c'est ça, Gallimard, c'est ça l'NRF, c'est-à-dire qu'est-ce qui se vérifie avec le temps? Donc Ponge était une sorte de dissident poète de fond et il a beaucoup inspiré les débuts de Tel Quel. Nous avons été très amis, j'ai fait avec lui des entretiens, etc. Voilà, donc c'était à la fois une dissidence, il fallait, par exemple, autre problème qui a été celui de Tel Quel tout de suite, qui a abouti après beaucoup, beaucoup d'efforts, parfois des procès très ennuyeux, il fallait absolument imposer l'œuvre complète, je viens de dire, de Bataille, mais aussi celle d'Antonin Artaud. Dès les premiers numéros, vous voyez que c'est là qu'est le combat. Et il a fallu des tas d'histoires, et en plus avec la famille sur le tas. Donc, pour nous, c'était la NRF, ça va comme ça, on a compris, c'est fini. Mais ils ont recouvert un certain nombre d'auteurs très importants qui ont été mis à la marge, mais qu'il faut ramener au centre. Voilà. Sade notamment, qui n'était pas quand même la lecture préférée de Saint-Jean de Perse ou de René Char, enfin un peu, peut-être René Char, mais enfin pas de Gide en tout cas. Et donc il fallait décaler ça. On l'a fait, à mon avis, de façon très, très logique.
Alors la NRF dans l'entre-deux-guerres, c'était l'Académie du roman. Est-ce que dans cette nouvelle avant-garde, dans les années 60, l'arrivée du nouveau roman, la NRF n'est pas finalement marginalisée, repoussée à l'arrière-garde, alors que Tel Quel, justement, accueille le nouveau roman?
Bien entendu, tout ça se passe en même temps. Et je crois que la date essentielle, c'est l'entrée de Paulhan à l'Académie française. Ça, c'était la rupture du contrat fondamental avec Gaston Gallimard. Si on fait la NRF, qui est le temple de l'esprit, du goût, de l'énergie, on n'entre pas à l'Académie française. La gestion des académiciens, on sait la faire sur place, mais enfin, il n'entre pas dans le premier cercle, au cœur du pouvoir. Donc là, ça a été une grande, grande rupture interne. Il s'agirait de savoir pourquoi Paulhan désespérait, en un sens, ne comptant pas très bien sur son œuvre complète, que d'ailleurs Gallimard n'avait faite, qui a été publiée chez Tchou, de façon d'ailleurs tout à fait...
Choquante de la part de Gaston, quand même.
Ah, rupture du pacte.
NJ David, on va aussi parler de votre activité de revue littéraire, puisque vous êtes secrétaire de la rédaction de la revue littéraire, de même que Dominique Horry était secrétaire de la rédaction de la NRF. Et alors la revue littéraire, finalement, la sobriété du titre, la présentation, la qualité des sommaires, tout ça, est-ce que vous ne vous situez pas dans la filiation de la NRF au 21e siècle?
Regardez la couverture.
On l'a reconnu ouvertement, hein, on a vraiment fait un mixte des lettres nouvelles et de la NRF. C'était tout à fait un hommage. De toute façon, vu le livre, la personne sur qui j'ai écrit, vous comprendrez que je m'inscris tout à fait dans la tradition des éditions Gallimard. Et que nous prolongeons dans une autre maison d'édition, les éditions Léo Char. Et donc c'est vrai qu'on avait envie de relancer une revue littéraire, c'était mensuel, c'était un pari vraiment pas évident, parce que c'est quelque chose...
Elle est plus mensuelle,
mais elle va revenir mensuelle.
Il y a
des rebondissements.
Tant mieux.
Et en fait, si vous voulez... À l'époque, alors bon, avant-guerre encore plus, mais même après-guerre, dans les années 50-60, les critiques de livres qu'on pouvait trouver dans les revues littéraires, comme la NRF ou comme telle qu'elle, avaient vraiment un impact sur le milieu et sur les lecteurs.
C'est-à-dire
les lecteurs achetaient les revues pour savoir ce qu'il était intéressant de voir. Et nous, d'ailleurs, dans la revue littéraire, c'est aussi les notes qui sont une des choses sur lesquelles moi je porte le plus d'attention, puisque c'est ça qui permet à une revue de se justifier. On fait un état des lieux de la littérature française contemporaine, en gros, quoi. Si vous achetez la revue littéraire à l'étranger, bon, vous aurez une idée quand même de ce qui se passe, quoi, de qui écrit, de quels sont les débats, quels sont les débats critiques qu'on peut mener. Donc on a vraiment joué franc jeu sur l'affiliation et on a poussé l'affiliation jusqu'à préserver l'esprit NRF, c'est-à-dire cet éclectisme justement. On voulait absolument que dans le même sommaire puissent apparaître des auteurs d'extrême gauche, des auteurs plus de droite, on va pas dire d'extrême droite. Enfin,
oui, bon. Mais du moment que les textes sont bons, voilà. C'est parfait.
Quand les textes sont bons, et donc justement ne pas continuer cette mentalité d'école, de chapelle, qui avait un petit peu quand même envahi le milieu littéraire jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est comme un éclatement, et en fait, nous, on ne fait qu'offrir une possibilité de diffusion et de communication pour les autres éditeurs et pour les auteurs qui sont chez d'autres éditeurs.
Donc la revue littéraire avec vous, NJ David, l'Infini avec vous, Philippe Solers, la Nouvelle Revue Française, ce n'est pas des écoles, ce n'est pas des chapelles aujourd'hui.
Ce sont des revues différentes.
Voilà, différent. L'Infini est différent de la revue littéraire pour ça.
NJ David, à la revue littéraire par conséquent, ce qui me paraît son point fort, en effet, les notes, oui, elles sont plus ou moins bonnes. Hein. Bon, les textes, ce n'est pas évident non plus toujours. En revanche, le point très fort, ce sont les entretiens. Très fourni, ouais. Très long, que vous faites personnellement ou Georgesco.
Ouais.
Voilà. Et donc, ou Vincent Roy, qui est souvent sans démêlé. Et ce sont d'excellents entretiens qui vont au fond et de façon même anticipatrice avec des auteurs.
Ouais. Hein.
Et là, c'est parmi les meilleurs entretiens qui sont parus dans la presse. Mais... Les journaux n'ont pas le temps ou la place.
Voilà, la place.
Et la revue. Alors là, vous avez marqué un point, je crois, très fort.
Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'à partir des années 70-80, après Pollan, justement, le monde va changer, les médias vont récupérer le pouvoir sur l'édition, voilà. Le pouvoir intellectuel, le pouvoir sur la littérature. Et donc, en fait, nous, en créant la revue littéraire, c'était une manière de ramener ce pouvoir chez les éditeurs. L'Infini, la NRF, la revue littéraire, ça veut dire ce sont quand même les éditeurs qui font le milieu littéraire, qui informent les lecteurs, qui communiquent sur leurs auteurs et pas la presse. On ne s'en remet pas à la presse. Donc, c'est un contre-pouvoir qui paraît dérisoire, hein, vous me direz, par rapport à l'article dans le Nouvel Obs, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que c'est un travail de fond, c'est un travail qui a 100 ans, hein, en fait, les 100 ans de la NRF, et on sait que c'est une manière de constituer une maison d'édition, de lui donner des bases, des fondements. Nous, la maison d'édition existait avant, mais la revue littéraire l'a vraiment inscrite dans une tradition éditoriale et nous a permis d'économiser toutes les années qu'on aurait dû passer avant de s'imposer. Et donc, ça a été quand même un assez joli coup.
Et ça a une influence beaucoup plus importante,
voilà.
Qu'on le croit.
Et ça a une grosse influence, par exemple, sur les journalistes. Effectivement, les grands entretiens qu'on fait, les journalistes, après, puisent là-dedans pour faire eux-mêmes leur papier. Donc, nous, c'est comme un travail préparatoire. On est un peu en avance. Comme on est dans le milieu, on n'est pas au moment de la sortie du livre, on est un peu avant. Quand l'auteur n'a même pas signé son BAT et que les épreuves ne sont pas encore parties à l'imprimerie. Et donc, c'est ça qui est très vivant, quoi.
Et alors, d'un point de vue de l'histoire intellectuelle, est-ce que la NRF n'est pas finalement la matrice, la revue littéraire par excellence, qui est imitée par toute volonté de créer une nouvelle revue, puisque...
C'est le modèle, c'est le grand modèle. Disons que pour moi, je dirais que dans le XXe siècle, il y a vraiment deux revues, et la NRF est telle qu'elle, parce qu'il n'y a que telle qu'elle qui va avoir cette force de contrer la NRF, d'effectivement de temps en temps de débaucher quelques auteurs Gallimard et de constituer, comme je le disais tout à l'heure, les éditions du Seuil. Et je pense qu'il n'y a que la NRF et telles quelles qui ont vraiment rempli cette fonction d'une revue littéraire, c'est-à-dire de créer un catalogue et de fonder une grande maison d'édition.
Tout à fait d'accord. Le problème là, c'est que telle qu'elle se continue chez Gallimard avec l'Infini, alors que la NRF se survit d'une autre, toute autre façon, c'est-à-dire maintenant sans éclat.
C'est plus patrimonial, c'est moins sur l'actualité. Voilà, c'est plus,
La NRF, je crois, désormais, c'est un cycle prestigieux, voilà. Mais qui n'est plus effervescent. La NRF est devenue très conventionnelle au début des années 1960, et quand Pollan a laissé tomber, c'est que vraiment lui-même en avait marre.
Une date, c'est Pollan arrêté en 65, hein.
Oui,
il est mort en 68.
Il est mort en 68,
mais il s'est retiré de chez Gallimard. Il a démissionné, entre guillemets, de chez Gallimard en 65. Il s'est retiré chez Dominique Horry. Et c'est là où, effectivement, il s'est consacré à la reconstitution de son œuvre et à l'édition des œuvres complètes chez Tchou. Donc, 65...
Qui est un désastre, vous êtes d'accord?
Ben oui, et puis c'est...
Un désastre complet.
Je pense que Pollan a extrêmement mal vécu quand même que Gallimard ne lui propose pas. Ce qui s'est passé, c'est que Pollan n'a pas voulu demander à Gallimard de publier ses œuvres complètes.
Oui,
il attendait qu'il le lui propose. Vous savez, souvent, ces choses-là, les grands enjeux comme ça reposent sur des petites susceptibilités. Et en fait, Gallimard ne lui a pas proposé. Et donc, Paulhan est parti chez Tchou. Mais c'était quand même une déception. Cet homme qui avait consacré toute sa vie aux auteurs, qui avait consacré toute sa vie à cette maison d'édition, qui en a fait quand même ce qu'elle est devenue, une très, 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 très belle maison d'édition, d'un seul coup se faisait rejeter par Gaston, avec qui il avait toujours eu une relation bon, conflictuelle. Hein, parce qu'effectivement, Paulhan, voilà, c'était la radicalité, c'était Blanchot. Alors que pendant ce temps-là, Gaston Gallimard était en train de négocier avec Simenon. Pour Paulhan, il était impensable de lire du Simenon. Aujourd'hui, on a changé par rapport à ça. On s'est ouvert, même quand on est très littéraire, on peut aimer des œuvres qui soient des œuvres de genre, un petit peu mineures. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment...
Oui, la littérature, le polar.
La littérature, c'est tout en haut. On ne plaisante pas avec ça. Et Simenon, c'est à chier.
Et les années 50-60 sont marquées par justement le développement du polar, de littérature qui sont méprisées.
Oui, par Paulhan. Paulhan ne va pas du tout comprendre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chez Paulhan et Horry, dans les années 60, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont complètement hors de l'époque, c'est-à-dire qu'ils appartiennent vraiment à l'époque d'avant. Et je pense que Paulhan est mort miraculeusement en 68, parce qu'en fait, il n'aurait pas supporté cette dérive, justement, qu'il va y avoir dans les années 70, comment la littérature va reculer au profit des médias. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu vivre, ça.
Mais la littérature ne recule pas du tout par rapport aux médias. Il y a des époques, tout simplement, qui se rebondissent, et si on n'a pas le système nerveux pour rebondir, eh bien, il n'y a qu'à faire autre chose. Par conséquent, Paulhan n'a pas été dans un rapport de force suffisant par rapport à Gallimard. Pourquoi ? Parce que son œuvre même n'était pas dans un rapport de force suffisant. Mm-hmm. Comparer la façon dont Céline, si j'ose dire, le couteau à la main, obtient sa pléiade. Lisez les lettres de Céline à la NRF que j'ai préfacées d'ailleurs à l'époque, et vous voyez que c'est une lutte de tous les instants avec vraiment des rapports de force extrêmement violents. Paulhan était le contraire d'un violent. C'était un chinois fondamental. Comment avez-vous dit un mot de trop de la violence apparente. Non. Or, les rapports doivent être, d'une certaine façon, aussi violents.
Je voudrais encore vous entendre, Philippe Solers, sur la fondation de Telle Quelle, puisqu'on a vu que la NRF, finalement, était tournée vers le passé, qu'elle insistait sur la continuité avec l'avant-guerre. Et donc, comment vous vous positionniez en 1960, quand vous avez fondé Telle Quelle ? Il y a un texte programmatique qui prône une littérature dégagée, donc un manifeste anti-sartrien. Est-ce que ce n'est pas, finalement, la fondation d'une nouvelle revue française, si vous me suivez ?
Non, pas du tout, je ne crois pas. Je crois qu'à ce moment-là, le diagnostic que nous portons, il ne s'agit pas d'être anti-sartrien, il s'agit de considérer que Sartre n'a pas dit grand-chose d'important sur la littérature, que, par exemple, c'est tout, que ça ne l'intéresse pas, au fond.
Mais c'était contre la théorie de l'engagement.
Mais non, même pas. Ça va de soi, ça allait de soi. Les choses étaient les suivantes. La NRF ne joue plus son rôle fondamental. Le tissu intellectuel va être en état de décomposition. Alors, il a été très vite. Rien ne périt plus vite que toute une neurologie intellectuelle. Il y a une dévastation très rapide. Il fallait, au contraire, changer de laboratoire, si vous voulez, pour reconstituer des cellules neurologiques futures. Ce que nous avons fait, et on devrait nous en savoir gré, bien sûr. Mais la question, c'est que la NRF ne jouait plus son rôle sur des points essentiels, ni philosophiques, ni littéraires, ni poétiques.
Donc l'avant-garde était ailleurs.
L'avant-garde, c'est quand... L'avant-garde, c'est un mot même que je renoncerai à propos. On l'a prononcé parce que c'était dans l'époque. Mais l'essentiel est ailleurs, vous comprenez. Heidegger n'a jamais été vraiment bien vu par Paulhan. Sa pensée n'existait pas. Or, voilà, Sartre avait tendance à dissimuler. Céline, c'était pas vraiment... Voilà, Artaud non plus, Bataille non plus, Ponge non plus. Donc, devant cette situation misérable, ancienne... archaïque, il fallait faire quelque chose, on l'a fait.
Mais c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure sur Paulhan. Paulhan exerçait aussi beaucoup son pouvoir en cachette, en double de Gallimard. Par exemple, sur les éditions de Minuit, il guidait complètement Lambrix, et tout ce qu'il n'arrivait pas à faire passer, ce qu'il savait qu'il ne passerait pas chez Gallimard, il l'envoyait à Lambrix pour qu'il le publie aux éditions de Minuit, en se disant comme ça, je ne romps pas le lien avec l'auteur, et hop, après je le récupère dès que l'auteur marche un peu, je vois Gaston, puis je dis, attends, là, il faut absolument récupérer ce type. Et donc, il y avait aussi un jeu comme ça. Paulhan était très fort pour... il avait ce sens chinois, là, du jeu de Go, ou du... enfin, de l'échiquier, quoi. C'est vraiment...
Mais il y a un moment où c'est plus ça.
De toute façon, ça marche plus, voilà. À partir du moment où il se retire en 65, où il y a quelque chose qui se délite, et en 68, avec la lettre de Blanchot qui rompt avec la NRF, bon, voilà. Après, ce ne sera plus jamais pareil.
C'est la fin d'une époque. Demain, nous parlerons de la suite, de la direction de Georges Lambrix jusqu'à aujourd'hui. Merci Angie David. Je rappelle que vous avez publié la biographie de Dominique Horry aux éditions Léo Cher et que nous attendons avec impatience la parution de votre premier roman, Marie-Lou sous la neige. Merci Philippe Solers. Vous dirigez L'Infini, dont le 100e numéro a paru au printemps, et vous avez publié vos mémoires chez Plon en 2007. Nous attendons la parution de L'Évangile de Nietzsche, un livre d'entretien avec Vincent Roy.